Alors, Stéphane Bouchard, bonjour. Vous êtes professeur au département de psychoéducation et de psychologie à l'Université du Québec en Outaouais et co-directeur du laboratoire de cyberpsychologie de la même université.
Oui, bonjour.
Alors, tout d'abord, je me demandais pourquoi vous intéressez-vous à la cyberpsychologie?
Prenons une seconde pour situer ou définir la cyberpsychologie. Oui, c'est un espace virtuel, le cyberespace, mais de façon concrète, moi, je m'intéresse à l'usage de la réalité virtuelle et de la télépsychothérapie, c'est-à-dire la psychothérapie offerte en vidéoconférence. Et les avantages sont vraiment pour avoir des traitements pour les problèmes de santé mentale, notamment les troubles d'anxiété, des traitements qui sont plus efficaces et plus accessibles pour les gens qui en ont un besoin.
D'accord. Et donc, quelles sont les différentes thérapies que vous offrez dans votre laboratoire? Je pense que ça, c'est plutôt autour des problèmes d'anxiété. Comment est-ce que ça fonctionne, non?
Effectivement, la plupart des choses qu'on fait présentement gravitent autour des troubles d'anxiété. Et avec la réalité virtuelle, on s'en sert pour traiter les problèmes d'anxiété sociale, de peur des vols en avion, les hauteurs, les endroits clos, l'agoraphobie et parler en public. Et en fait, dans tout ça, ce qu'il faut voir, c'est que dans l'essence même de la thérapie des troubles anxieux, quelque part dans le processus, il faut apprivoiser ou affronter nos peurs. C'est un élément clé dans la thérapie. Certaines formes de thérapie vont même miser presque l'ensemble de la thérapie sur cette étape-là qui est d'apprivoiser ses peurs. Par contre, apprivoiser ses peurs, ça pose certains défis pour le client et pour le psychologue. Pour le psychologue en particulier, prenons comme exemple la peur des vols en avion. Moi, comme psychologue, si j'ai un client qui a une peur des vols en avion, il va falloir quelque part qu'on prenne l'avion. Ce qui, moi, me pose des défis, c'est que j'aurai énormément de difficultés à doser que ce que je vais faire vivre à mon client parce que je perds le contrôle comme psychologue. Je peux pas prévoir si on va avoir un vol en bonne condition, en mauvaise condition, comment tout va se dérouler. Un deuxième point qui peut être plus pour le client, c'est que ça risque de coûter relativement cher parce que le client va devoir payer son billet d'avion plus le mien et idéalement le faire plus d'une fois. Alors qu'en réalité virtuelle, on met les lunettes de réalité virtuelle, qui est un peu comme une paire de lunettes de ski avec deux écrans de télé à l'intérieur, là, pour un peu caricaturer, et un capteur de localisation, qui lui suit les déplacements de la tête. Alors ce que ça fait, c'est quand la personne bouge et tourne la tête, dans n'importe quelle direction, l'image suit les déplacements de la tête. Ça crée l'illusion qu'on est dans l'environnement virtuel et on ne voit pas la pièce dans laquelle on est. Donc, ça nous permet d'oublier qu'on est dans un bureau et d'avoir l'impression qu'on est passager dans l'avion. Alors, moi, comme psychologue, à ce moment-là, je vois sur mon écran d'ordinateur ce que la personne voit dans ses lunettes. Je suis à côté d'elle et je peux l'accompagner dans le processus d'apprivoiser la peur des vols en avion. On peut faire un décollage, on peut en faire trois d'affilée, on peut faire un vol en bonne condition, en mauvaise condition. Ça me donne énormément de contrôle comme professionnel. Et pour le client, outre la réduction des coûts par rapport au billet d'avion, puis un côté plus intéressant, parce que souvent les clients se disent, ben, si je commence en réalité virtuelle, c'est peut-être moins pire, peut-être que je peux commencer comme ça et par la suite passer à des choses plus complexes.
D'accord. Et donc là, l'exemple que vous avez donné avec bon les lunettes, les éléments que vous donnez sont seulement visuels. Est-ce que vous pouvez aussi offrir des éléments peut-être plus auditifs au niveau, par exemple dans l'avion, est-ce qu'ils vont entendre des bruits?
Oui, en fait, pour la réalité virtuelle, l'idée, c'est d'essayer de se rapprocher significativement de la réalité objective. Donc, les gens vont être portés naturellement à avoir des stimuli visuels, mais également, un des deuxièmes sens qui est capital dans nos interactions avec notre environnement, c'est le son. Donc, oui, les stimuli sonores sont importants. Je vous dirais que la majorité des environnements de réalité virtuelle utilisent l'image et le son. Je parlerai des autres sens dans un instant. Mais par exemple, dans les vols en avion, oui, la personne a l'impression, on entend tout ce qu'on entend dans un vrai vol en avion. Donc, la personne a le sentiment d'être là, pas juste sur le plan visuel, mais sur le plan sonore. et un peu sur le plan tactile, c'est-à-dire qu'il y a des appareils, soit des caisses ondes graves, soit d'autres appareils qui vont transmettre les vibrations dans la chaise. Alors, lorsqu'on décolle, lorsqu'on atterrit, lorsqu'il y a un éclair, lorsque l'avion rétracte les roues, on sent les vibrations. Et ça, c'est des éléments importants pour les phobiques d'avion. D'autres sens qu'on peut aller chercher, c'est l'odorat. Par exemple, ici, au laboratoire de cyberpsychologie de l'Université du Québec en Outaouais, on a en plus de tout ça un appareil olfactif. Donc, on peut avoir des odeurs qui vont correspondre à ce que la personne voit dans l'environnement virtuel. On vient de se munir d'un truc, ce qu'on appelle le feedback haptique. Haptique, c'est le sens du toucher. Donc, on peut avoir l'impression que quand on touche quelque chose, il y a une résistance, comme si on touchait soit un tissu versus une surface rigide, versus une nappe sur une table ou des choses comme ça. Maintenant, l'erreur commune, c'est de croire que ça prend absolument l'ensemble des sens pour que ça soit utile d'utiliser la réalité virtuelle, alors que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut bien doser les stimuli qui sont pertinents pour les phobiques. Par exemple, dans le cas de la peur des araignées, il n'y a pas beaucoup de sons. Là, les gens vont se promener dans un appartement, on entend peut-être une musique de fond, on s'entend marcher, mais c'est à peu près tout parce que c'est pas quelque chose qui est... Le son est assez secondaire. Par exemple, on travaille avec sur un projet pour le dépistage et la prévention du jeu pathologique, du jeu excessif. Alors là, dans un casino virtuel ou dans un bar virtuel, le son devient très important parce que le son de la machine nous donne l'impression qu'on gagne, qu'on perd. Il y a une ambiance, c'est ce que les joueurs qui ont des difficultés à se contrôler, c'est une des choses que ces joueurs-là recherchent, c'est l'ambiance également. Donc, selon les modalités, il va y avoir plus de son ou moins, ça dépend.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce que les traitements qui vont utiliser la réalité virtuelle sont faits pour tout le monde?
Oui, il y a certaines contre-indications. Première chose, ce n'est pas une panacée, c'est pas parce que ça existe et c'est high-tech que nécessairement c'est un traitement que tout le monde doit avoir besoin. Il faut vraiment voir que ça prend une évaluation faite par un professionnel pour voir le type de problème que la personne a et le type de traitement qui est adapté. Donc déjà là, ça prend un encadrement. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a à peu près un 10% des gens qui essaient la réalité virtuelle et qui vont se plaindre de ce qu'on appelle les cybermalaises. Ça s'apparente beaucoup au mal des transports. Quelqu'un qui serait très, très sensible au mal des transports, qui aurait la difficulté d'être passager dans une voiture, risque d'avoir beaucoup d'étourdissements et de maux de cœur en réalité virtuelle. Parce qu'un peu comme dans le mal des transports, il peut y avoir un certain décalage entre ce qui est perçu, entre les mouvements qui sont perçus par les yeux, ceux qui sont détectés par l'oreille interne. Certaines limites technologiques peuvent également se joindre à ça. Donc, je dirais qu'à peu près 10% des gens vont dire quand ils essaient, « Ah, moi, je me sens pas bien, ça me donne des étourdissements ou un mot de cœur, des maux de cœur. » À ce moment-là, il s'agit d'arrêter, c'est pas des effets secondaires catastrophiques. Par contre, il faut garder ça à l'œil comme professionnel pour être sûr que les gens se sentent pas incommodés.
D'accord. Et quels sont les résultats que vous avez obtenus? Est-ce que vous avez fait des comparaisons entre les traitements, je dirais, d'exposition et donc en réalité virtuelle?
Oui, les recherches qu'on fait ici à Gatineau s'inscrivent au fond dans une mouvance, si je peux prendre le terme, internationale, où on est une quinzaine de gros centres de recherche qui faisons des études pour comparer l'efficacité de la thérapie par exposition avec ou sans réalité virtuelle. Ce qu'on sait très bien maintenant, c'est que pour les phobies spécifiques, le taux d'efficacité gravite aux alentours de 80% avec la réalité virtuelle, ce qui est à peu près le même que la thérapie par exposition dite traditionnelle, in vivo dans les faits. On a les mêmes taux d'efficacité avec des relances jusqu'à 3 à 5 ans maintenant qui suggèrent un bon maintien des gains sur plusieurs années. Donc ça, c'est pas vraiment un problème pour la phobie spécifique. Les études ont commencé à sortir sur l'anxiété sociale. On participe à une étude ici, on mène une étude ici, on a participé à une étude avec les collègues français. Et le taux d'efficacité semble tout à fait également comparable à la thérapie classique. Maintenant, les chercheurs aux États-Unis commencent à s'intéresser aux troubles de stress post-traumatique. Donc les données préliminaires suggère qu'on a un très bon taux d'efficacité. Il faudra attendre des études plus rigoureuses qui sont en cours. Mais bref, À date, jusqu'à maintenant, ce qu'on voit, c'est des taux d'efficacité comparables, avec par contre des clients qui sont souvent plus intéressés à apprivoiser leur peur en réalité virtuelle que de le faire in vivo. Donc, pour un même taux d'efficacité, ça semble être plus attirant pour certains clients. Et d'un autre côté, ça donne beaucoup plus de flexibilité aux psychologues. Alors, je ne pense pas que la réalité virtuelle va nécessairement un jour être un traitement plus efficace que la thérapie par exposition in vivo, mais certainement plus flexible, plus adapté et plus intéressant.
D'accord. Et en fait, je suis curieuse de savoir, les patients, quand ils vont faire un traitement en réalité virtuelle, ils savent hein, que c'est pas réel. Je trouve ça quand même incroyable qu'il y ait les mêmes résultats. Est-ce que ça a un facteur? Est-ce que ça joue quelque chose? Le fait qu'ils savent que dans le fond, il va rien leur arriver s'ils sont dans un bureau plutôt que dans la réalité?
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est surprenant de voir que ça fonctionne, ou du moins quand on le regarde rapidement, parce que, comme vous dites, les gens qui apprivoisent leur peur en réalité virtuelle n'apprivoisent au fond que des pixels, il n'y a rien. Mais en même temps, il y a des explications intéressantes, parce que si on regarde un peu comment fonctionne la réaction d'anxiété, prenons les phobiques vont vous le dire que quelque part, ils savent que les araignées, c'est pas si dangereux que ça, mais ils sont incapables de s'empêcher d'avoir cette peur-là. Donc, il y a déjà une dualité entre les émotions et la logique. Les émotions qui expriment cette peur-là, qui se déclenchent pour une différente raison, et la logique qui dit, c'est pas dangereux, mais j'ai peur quand même. Et au fond, ça nous amène à prendre un instant pour regarder comment le cerveau fonctionne. Et tout le centre des émotions, ce qu'on appelle le système limbique, réagit plus rapidement que la portion logique, que l'analyse logique dans la séquence. Lorsqu'on présente quelque chose à un phobique, par exemple un phobique d'araignée, 12 millisecondes après, le centre des émotions a détecté l'objet et a commencé à déclencher une réaction de panique ou d'alarme ou d'anxiété. Et 7 à 9 millisecondes après, l'analyse logique est impliquée. Donc, il y a une préséance très rapide, mais quand même de l'aspect émotionnel. Et la réalité virtuelle capitalise sur ça. C'est vraiment de se dire, si l'environnement en réalité virtuelle est suffisamment crédible, scientifiquement, on a des difficultés à bien définir le suffisamment, mais si l'environnement est suffisamment crédible, le centre des émotions oublie que c'est pas vrai et se met à réagir comme si c'était vrai. D'ailleurs, les phobiques d'araignées vont même parfois changer de chaîne à la télévision lorsqu'ils voient une araignée, alors que quelque part, l'araignée, elle n'est pas devant eux. Mais c'est trop viscéral, ça vient chercher l'anxiété. Et le traitement repose sur les mêmes principes. Et donc, le cerveau n'ayant pas 2 millions d'années d'évolution pour se dire que le virtuel, c'est pas réel, si on a suffisamment d'indices pour aller chercher la réponse émotionnelle, on a le même taux d'efficacité.
D'accord. Et donc, comment vous voyez le futur de la cyberpsychologie? Parce que pour l'instant, je dirais que c'est plutôt en mode, vous êtes en train d'étudier un peu le phénomène. Pensez-vous que ça serait offert dans des cliniques ouvertes au grand public, dans le futur?
Oui, déjà ça vient de commencer au Québec. On ouvre, nous ici, en fait, moi et deux autres collègues, on ouvre une clinique privée qui s'appelle In Virtuo. Et déjà le lancement, c'est le 5 novembre 2009. Donc In Virtuo qui offre des services en psychothérapie privée à la population. Donc, le transfert se fait au Québec. Il y a quelques autres personnes, il y a quelqu'un d'autre à Victoria en Colombie-Britannique qui le fait. Nous, In Virtuo, on va à la fois offrir des services et développer et mettre en marché des logiciels de réalité virtuelle, ce qui fait de cette compagnie-là quelque chose d'assez unique, au pays. Le problème présentement pour que le monsieur et madame tout le monde puisse avoir accès à cette technologie-là, c'est pas vraiment le coût, du matériel, c'est le coût des logiciels qui est encore prohibitif. Mais ça devrait diminuer. Et un des avant, quand vous dites penser l'avenir, je vois deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est la réalité virtuelle dans les cliniques privées, dans les hôpitaux, dans les CLSC. Et je suis certain que ça va arriver d'ici quelques années parce que le marché du jeu risque d'amener une réduction des coûts des logiciels et du matériel informatique. Donc ça, c'est une portion de l'avenir. L'autre, c'est une nouvelle technologie qui s'appelle la réalité augmentée. En réalité augmentée, on ajoute la personne porte des lunettes, il y a des caméras qui filment en temps réel la pièce autour de nous, et on ajoute par-dessus ce film-là, en temps réel, des objets virtuels. Alors, ce que ça veut dire, c'est que je pourrais être en train de parler avec vous au téléphone, ou vous pourriez être en train d'écouter le blog, et avec vos lunettes, on pourrait mettre une copie de Stéphane Bouchard qui flotte devant vous, un peu comme on voit dans Star Wars, et la personne voit un personnage virtuel flotter devant lui dans la pièce physique ou objective. Alors, c'est vraiment un mélange du virtuel et du réel. Et pourquoi c'est l'avenir? Parce que ça réduit de beaucoup le temps de développement et de programmation des environnements de réalité virtuelle. Pour la peur des araignées, j'ai pas à me taper la création d'un appartement, d'un salon, d'une cuisine, d'un bureau pour mettre mon araignée virtuelle dessus. Je peux tout simplement prendre l'araignée virtuelle et en réalité augmentée, la mettre sur le bureau du client dans sa maison, par exemple. Donc, je crois que d'ici une dizaine d'années, ce qu'on va voir beaucoup plus encore, c'est cette technologie-là où on superpose à un film en temps réel de la réalité objective, on superpose des images virtuelles.
Ce qui risque d'être encore plus réel.
Absolument. On commence nos projets de recherche ici avec la réalité augmentée. Ici à Gatineau, on a du matériel abordable, de moins cher de réalité virtuelle. On a jusqu'à l'extrême avec une voûte à 6 faces. Une voûte, c'est un cube dans lequel vous êtes immergé de tous les côtés, sur des murs de 3 mètres par 3 mètres, de tout 360 degrés. Il y a des images qui flottent devant vous et on se voit dans cet environnement virtuel-là. Donc, on a les deux extrêmes. Et maintenant, on fait également de la réalité augmentée. Et un des projets qu'on veut vérifier en 2010, c'est de comparer réalité virtuelle versus réalité augmentée versus la voûte.
D'accord. Et pour finir, vous avez mentionné au début que vous étiez en train de travailler aussi sur le traitement des pour le jeu pathologique, c'est ça?
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres domaines que vous êtes en train d'explorer en ce moment pour l'utilisation de la réalité virtuelle?
Oui, on travaille clairement dans le développement d'un environnement pour la prévention et le traitement du jeu pathologique. On commence à des premières études préliminaires en ce qui nous concerne sur les troubles alimentaires avec la réalité virtuelle. Et puis, il y a des évaluations qui se font en neuropsychologie avec un environnement qu'on a travaillé avec des collègues de Trois-Rivières pour faire de l'évaluation des fonctions exécutives, certaines fonctions neurologiques. Et finalement, on commence à travailler avec les forces armées canadiennes pour essayer de développer un outil qui permettrait d'amener les militaires à mieux gérer leur stress dans l'espoir ultime de pouvoir prévenir l'apparition du trouble de stress post-traumatique. Donc, la réalité virtuelle, dans notre cas, dans ce cas-ci, deviendrait un outil pour pratiquer les habiletés de gestion de stress dans des situations d'apprentissage pour les militaires.
D'accord. Stéphane Bouchard, merci beaucoup.
Ça fait plaisir, merci.